Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Nathalie Barge.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du 2 février 2016, à la une ce soir.
Publication du calendrier électoral en vue de la présidentielle du 20 mars au Congo-Brazzaville.
En Ouganda, un ancien chef du renseignement inculpé et écroué pour implication dans des activités politiques.
Élection dans l'Iowa pour la présidentielle de novembre aux États-Unis. Quelles leçons tirer de la victoire de Ted Cruz face à Donald Trump et du résultat serré entre Hillary Clinton et Bernie Sanders?
C'est tout de même perçu comme une défaite psychologique pour Hillary Clinton, dont l'entourage avait prédit une victoire assez convaincante.
Econ Light in Africa, une initiative d'électrification de l'Afrique dont nous parlerons ce soir avec Samba Batili, pionnier dans les secteurs des énergies propres.
On va travailler avec tout le monde, mais c'est d'abord nous qui devons jeter les bases du développement.
L'opposition syrienne s'abstient des négociations de Genève.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au Congo-Brazzaville, le gouvernement a publié le calendrier électoral en vue de la présidentielle du 20 mars. Selon l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Boulou, le dépôt des candidatures s'ouvre le 5 février alors que la campagne électorale va démarrer le 4 mars. On fait le point avec notre correspondant Nguelan Gousseau.
C'est vendredi prochain que les bureaux de la Cour constitutionnelle vont commencer à recevoir les candidatures. Le rituel va durer jusqu'au 20 février et chaque candidat devrait payer une caution de 25 millions de francs CFA pour prétendre briguer la magistrature suprême. Présentement, 5 candidats se sont déjà déclarés. L'indépendant Joseph Kinyumbi Kiambungu, André Okombi-Salissa de la CADD, Pascal Tsassima-Biala de l'UPADS, Angios Ngangia Engambe du PAR, et Moussingouari, un autre candidat indépendant. Investi en fin janvier par son parti, le PCT, le président Denis Sassou Nguesso ne s'est toujours pas prononcé. La campagne électorale, elle, s'ouvrira le 4 mars prochain et jusqu'au 18 mars, les candidats retenus s'emploieront à convaincre le plus d'électeurs possible. Sur le terrain, on note actuellement une affluence significative des populations pour se faire enrôler sur les listes électorales. Nguelan Gousseau, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En Ouganda, un ancien chef du renseignement, le général David Sejusa, a été inculpé et écroué ce mardi par un tribunal militaire pour s'être livré à des activités politiques en contradiction avec les règlements de l'armée. Sa demande de libération conditionnelle sera examinée le 9 février. Jacques Aristide nous en dit plus.
Le général de 61 ans, un critique virulent du président Yoweri Museveni, a plaidé non coupable à des 5 chefs d'accusation, dont celui d'avoir voulu quitter l'armée sans y être autorisé. David Sejusa a qualifié les charges de ridicules. D'après son avocat que cite l'AFP, l'homme de loi d'ajouter que c'est une décision politique parce que son client soutient l'opposition et que le gouvernement, dit-il, veut le mettre hors jeu. La tension monte en Ouganda à l'approche de l'élection présidentielle, dont le premier tour a lieu le 18 février et pour laquelle le président Museveni, au pouvoir depuis 1986, sera une nouvelle fois le grand favori.
Charles Blégoudé, l'ancien chef des jeunes patriotes et ministre de la jeunesse de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a affirmé ce mardi devant les juges de la Cour pénale internationale n'être responsable d'aucune goutte de sang versée lors des violences en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Ce mardi est le 4e jour du procès pour crimes contre l'humanité à La Haye, où il comparait avec M. Gbagbo. Son avocat l'avait juste avant décrit comme un homme de paix, un pacifiste dans l'âme. Charles Blégoudé est considéré par les ONG internationales comme un de ceux ayant le plus contribué aux violences. Il avait notamment lancé ses partisans dans des émeutes anti-françaises en janvier 2003 et novembre 2004.
La Cour pénale internationale rendra le 21 mars son jugement contre l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, accusé de crimes commis en 2002 et 2003 par sa milice en Centrafrique. Si l'accusé est reconnu coupable, une peine sera déterminée à un stade ultérieur. Un appel est possible dans cette affaire marquée par des accusations de subornation de témoins. Quelques 1500 miliciens de Jean-Pierre Bemba s'étaient rendus en Centrafrique en octobre 2002 pour soutenir le président Félix Patassé, victime d'une tentative de coup d'État menée par François Bozizé. Selon l'accusation, ces hommes avaient alors violé, tué et pillé la population.
20 cas suspects de fièvre Lassa ont été répertoriés dans un district du centre du Bénin, dont 9 décès, a déclaré ce mardi le directeur national du ministère béninois de la Santé à l'AFP. Le premier cas de cette nouvelle épidémie a été répertorié le 5 janvier à Tchaourou, dans le centre, à plus de 350 km au nord de Cotonou, précise un communiqué de l'UNICEF.
À Madagascar, 13 personnes sont mortes ce mardi dans un affrontement entre des gendarmes, des villageois et des voleurs de zébus près d'Isalo, rapporte l'AFP citant la gendarmerie. Ces affrontements se sont produits alors que 400 zébus avaient été volés dans le village d'Antana Amaro, près de la zone minière d'Ilakaka, selon la gendarmerie.
En Tunisie, 3 djihadistes présumés ont été tués et un membre des forces de sécurité a été blessé dans le cadre d'une opération antiterroriste dans la région de Gabès, qui se poursuivait mardi soir, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Cette opération sécuritaire se déroule dans la zone montagneuse de Tounine, à une trentaine de kilomètres au sud de Gabès, où les forces de sécurité avaient été alertées de la présence d'un groupe terroriste, a-t-on indiqué dans un communiqué.
Des civils meurent de faim au Soudan du Sud pendant que les belligérants continuent de bafouer l'accord de paix signé en août, a déclaré ce mardi le chef d'un groupe d'observateurs internationaux, Festus Mogae, de la commission de surveillance et d'évaluation de l'accord de paix d'août 2015, s'est dit effaré par la situation humanitaire après 2 ans de guerre civile.
Les avocats de l'ancien ministre sénégalais Karim Ouad, détenu à Dakar, où il a été condamné en mars 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, ont annoncé avoir déposé aujourd'hui à Paris une plainte pour dénoncer sa détention arbitraire lors de la période précédant son procès.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, la course à la présidentielle a vraiment été lancée hier avec la première primaire organisée dans l'État de l'Iowa. Ted Cruz chez les Républicains et Hillary Clinton chez les Démocrates ont remporté le scrutin. Les détails de Nicolas Pineau.
L'opposition syrienne a décidé mardi de boycotter ses pourparlers avec l'émissaire de l'ONU pour protester contre l'aggravation de la situation en Syrie, a indiqué un porte-parole. Il n'y a pas de rencontre avec l'émissaire Staffan de Mistura, a déclaré à la presse Farah Adazi. Nous avons présenté nos exigences, il n'y a aucune raison de répéter la même chose avec M. de Mistura, a-t-elle ajouté. Une porte-parole des Nations Unies a confirmé que la réunion prévue mardi en fin d'après-midi avait effectivement été annulée. Les représentants de groupes armés présents à Genève le sont à titre personnel, avait déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Abu Dhabi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue émirati. Une chose est sûre, c'est que ces négociations devraient être globales, conformément à la résolution 2254 de l'ONU et inclure des représentants de tout le peuple syrien, comme le prévoyait la déclaration de Genève de 2012, a estimé le ministre russe.
Vous venez d'entendre en fait un exposé de John Lindon qui parlait de l'opposition syrienne qui a annoncé qu'elle ne participera pas au pourparlers ouvert lundi à Genève et censé être une étape décisive vers un règlement politique. On revient aux États-Unis pour donc la primaire qui a été organisée hier soir, primaire aux élections présidentielles dans l'État de l'Iowa.
Oui, chez les démocrates, le coude à coude se confirme puisqu'Hillary Clinton est certes arrivée en tête avec 49,8% des suffrages contre 49,6% pour son adversaire Bernie Sanders. Oui, mais voilà, en termes de délégués, ces grands électeurs qui voteront lors de la convention du parti cet été, Madame Clinton obtient 24 délégués contre 21 délégués pour M. Sanders. Le prochain vote, dans l'État du New Hampshire, s'annonce donc crucial pour voir si Hillary Clinton prend le devant ou si Bernie Sanders confirme sa popularité. A noter que le troisième candidat à l'investiture démocrate, Martin O'Malley, a jeté l'éponge hier soir. Chez les Républicains, à présent, le conservateur Ted Cruz l'a emporté avec 28% des suffrages contre 24% pour le milliardaire Donald Trump. Ce dernier, avec tout son argent et sa verve de numéro 1 des sondages, peut être déçu car derrière lui, le sénateur de Floride, Marco Rubio, arrive troisième avec 23% des suffrages. En termes de délégués, Cruz obtient 8 délégués, Trump et Rubio 7 chacun. Là aussi, la course est donc très serrée. Rendez-vous mardi prochain dans le New Hampshire pour voir si tout s'éclaircit chez les Républicains. A noter que Mike Huckabee a lui aussi décidé de quitter la course. Il avait pourtant remporté la primaire de l'Iowa en 2008.
Les nouvelles priorités des États-Unis en matière de dépenses militaires reflètent les efforts visant à contrer l'agressivité de la Russie et lutter contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Washington compte doubler la somme allouée aux opérations contre les djihadistes. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, en présentant le budget du Pentagone pour 2017. Un budget qui s'élève à 583 milliards de dollars.
Les dirigeants européens planchaient aujourd'hui sur un plan visant à convaincre la Grande-Bretagne de ne pas abandonner ce bloc composé de 28 nations. Londres y voit un progrès réel, mais le Premier ministre David Cameron a dit qu'il faut faire davantage pour éviter un Brexit. La Grande-Bretagne fait face à une situation exceptionnelle, précise le plan à l'étude, dû à un afflux d'immigrants. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est dans la Minute Éco ce soir avec Claire Morin-Gibourg.
La Guinée a signé une convention minière avec le groupe britannique Alufer pour l'exploitation d'un gisement de bauxite, un composant de l'aluminium. Selon nos confrères de Jeune Afrique, la production prévue dès 2017 est attendue à 5 millions de tonnes. Le Nigeria négocie des emprunts avec la Banque africaine de développement et la Banque mondiale pour financer une partie du déficit de 2200 milliards de naira, soit 10 milliards d'euros dans son budget 2016. Ce montant n'a pas été confirmé. Face à la chute des cours du pétrole, les pays producteurs prennent des mesures d'urgence pour faire face à l'effondrement brutal de leurs revenus budgétaires. La situation n'est toutefois pas alarmante pour l'instant pour les pays africains exportateurs qui disposent encore d'un an de réserve de change ou qui sont aidés par les institutions financières comme le FMI ou la Banque mondiale. C'est ce qu'a expliqué Ludovic Subran, chef économiste chez Euler Hermès à l'AFP. Enfin, course hippique, le Grand Prix d'Afrique sera organisé le week-end prochain à l'Hippodrome de Vincennes en France. 15 pays africains participent, notamment la RDC, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso. Au programme, découverte des écuries, rencontres avec les drivers et champions trotteurs, mais aussi concerts avec le Congolais Youssoufa et le Malien Mokobé.
Merci Claire pour cette page économie.
Dans l'actualité sportive ce soir, championnat d'Afrique des Nations 2016 au Rwanda. Alors bonsoir Bagassi Koura, place aux demi-finales.
Oui, dès demain à Kigali au stade Amahoro, les Léopards de la RDC affronteront le Sili National de Guinée. Jeudi, ce sera un choc 100% ouest-africain entre la Côte d'Ivoire et le Mali.
Je sais que tu ne veux pas parier, moi je vais avec le Sili National et la Côte d'Ivoire.
Ben, ça fait 3 contre 1, 3 équipes, 3 pays donc, d'Afrique de l'Ouest contre un pays d'Afrique centrale.
Oui.
On a plus de chances, 75% de
définitivement.
Chances.
Définitivement. Durcissement des mesures antidopage au Nigeria, Bagassi.
Oui, le ministre nigérian des Sports, Salomon Dalung, affirme vouloir durcir ses mesures antidopage après la suspension de 8 athlètes nigériens contrôlés positifs lors des Jeux africains en septembre dernier. Les 8 cas de dopage enregistrés lors de la compétition au Congo concernent des athlètes valides et handisports dans 3 disciplines, l'athlétisme, l'haltérophilie et la lutte, ceux qui avaient fait usage de stéroïdes anabolisants, de diurétiques ou d'autres produits masquants. Tous viennent d'être suspendus, 4 ans à l'exception de l'haltérophile Elisabeth Onois, 8 ans dont il s'agissait du second contrôle positif.
Affaire Neymar, le club brésilien Santos s'est senti trompé.
Oui, c'est ce qu'a affirmé ce mardi devant la justice espagnole. Le club qui dit s'être senti trompé par Neymar, mais aussi par son père, après la révélation des détails du transfert du Brésilien du Barça, dont le montant au Barça, dont le montant réel lui avait été occulté. Le Barça avait, dans un premier temps, chiffré le transfert à 57,1 millions d'euros. Eh bien, il semble que ce serait faux, puisque la justice espagnole estime que ce montant était de 83 millions d'euros.
NBA, championnat de basket nord-américain, quelques résultats rapidement.
Eh bien, mauvaise soirée en revanche pour Toronto, qui s'est incliné sur le parquet de Denver, 112 à 93. Oklahoma s'est imposé à domicile face à Washington, 114 à 98. Détroit a renoué avec la victoire face à Brooklyn, 105 à 100. De son côté, Chicago a concédé une deuxième défaite, 105 à 96, après prolongation face à Utah.
Merci, Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Chérubin Dorsil, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Midwest américain, plus précisément l'Iowa.
Aux premières consultations électorales en vue de la présidentielle de novembre, le républicain Donald Trump a subi un revers hier soir dans l'Iowa en terminant deuxième derrière Ted Cruz, tandis que l'équipe d'Hillary Clinton a revendiqué une victoire très serrée contre Bernie Sanders. En effet, pour les démocrates, cette élection aura été la plus serrée jamais vue dans l'Iowa. Pour une analyse, nous avons joint à New York Richard Etu, correspondant pour le journal canadien La Presse, qui parle de surprise dans les deux cas.
C'est une surprise dans la mesure où les sondages indiquaient une forte fin de course pour Donald Trump. Mais les résultats prouvent une fois de plus que l'organisation de terrain s'est déterminante dans un État comme l'Iowa. C'est ce qui a permis à Ted Cruz de devancer Trump. Il a fait le plein de votes chez les évangéliques, notamment. C'est une surprise aussi parce que tout au long de sa campagne, Donald Trump s'est décrit comme un gagnant et il va être intéressant de voir comment il va encaisser cette défaite et comment les républicains pourraient changer la façon dont ils voient cet homme.
Cependant, la prochaine étape, c'est le New Hampshire et il est en tête dans les sondages dans cet État. Finalement, est-ce que cette situation d'hier ne risque pas d'effriter un petit peu sa popularité?
Peut-être, sauf que, bon, vous soulignez les sondages aussi, dont il faut peut-être se méfier, mais il est fortement en avance au New Hampshire. Et la différence, c'est que le vote au New Hampshire, c'est une primaire et ça se déroule de façon un peu plus conventionnelle. Et ça demande peut-être moins d'organisation sur le terrain pour assurer la victoire. Donc, c'est quand même l'occasion pour Donald Trump de rebondir. Et il va être intéressant de voir jusqu'à quel point Ted Cruz, qui est deuxième dans les sondages dans cet État, pourra gruger justement les appuis de Donald Trump après sa défaite d'Iowa.
Alors, côté démocrate, l'on dit hein, finalement que cette primaire aura été la plus serrée jamais vue dans l'Iowa. Hillary Clinton et Bernie Sanders.
Voilà, il y a, au moment où on se parle, seulement 0.4 ou 0.5% de vote qui sépare les deux candidats. Donc, les deux peuvent, à la limite, revendiquer la victoire, sauf que c'est tout de même perçu comme une défaite psychologique pour Hillary Clinton, dont l'entourage avait prédit une victoire assez convaincante. Et donc, c'est déstabilisant pour elle et ça illustre ou ça laisse présager une course longue contre un candidat venu un peu de nulle part qui, cependant, incarne la colère d'une partie de l'électorat démocrate à l'égard de Wall Street, à l'égard de la façon dont les choses se passent en ce moment à Washington. Et évidemment, un peu comme Trump, Sanders est favori au New Hampshire. Son défi, ce sera d'étendre ou d'élargir sa base dans des États comme la Caroline du Sud ou le Nevada, où l'électorat n'est pas aussi monochrome que celui de l'Iowa.
Richard Etu, correspondant du journal canadien La Presse à New York, au micro de Nathalie Barge.
Parlons maintenant de cette affaire judiciaire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Plus précisément, la question du mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro. Cette question fera l'objet d'un règlement diplomatique, selon le président Kaboré, faisant écho à un souhait de son homologue ivoirien. Les autorités burkinabées ont décidé d'envoyer une commission en Côte d'Ivoire pour, dit-on, présenter les preuves de l'implication de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, dans le putsch de mi-septembre au Burkina Faso. Est-ce que l'implication du politique inquiète les hommes de droit? Voici au micro de Bagassi Koura la réponse de Maître Propé Farama, avocat des victimes du putsch au Burkina Faso.
En tant qu'avocat dans ce dossier, en tant que praticien du droit, c'est toujours inquiétant quand on entend que les questions politiques et diplomatiques peuvent faire une action dans la question juridique et judiciaire. Parce que pour nous, une question de justice, dès lors que la politique s'y approche, il y a un danger à avoir des atteintes à l'indépendance de la magistrature, de la justice. Et ce serait vraiment regrettable qu'on en arrive à une telle situation.
Alors, on parle d'une commission de juges, mais aussi de ministres des Affaires étrangères qui va se rendre en Côte d'Ivoire pour présenter les preuves. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben écoutez, tant que tout cela est fait dans le cadre de la légalité de la loi et du droit, ben écoutez, tant mieux. Mais si c'est dans l'optique de trouver des arrangements politiques ou politiciens, je pense que ce serait tout à fait inacceptable dans le peuple burkinabé. C'est une question de justice, à notre avis. Ce n'est pas une question entre l'État burkinabé et l'État ivoirien. C'est une question d'implication. Un individu, dans une affaire judiciaire, est-il cet individu un des responsables de la Côte d'Ivoire, ça n'enlève rien le fait qu'ils doivent répondre à la justice. Et moi, je pense que ce que l'État burkinabé et l'État ivoirien devraient demander plutôt aux personnes impliquées dans le cadre de cette affaire, de répondre, de s'expliquer, et au besoin d'assumer entièrement leurs responsabilités vis-à-vis de la justice, mais vis-à-vis des deux peuples et vis-à-vis aussi de l'histoire.
Alors, on dit que le Burkina et la Côte d'Ivoire ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, que c'est au nom des relations entre les deux pays qu'il faudra calmer la situation. Qu'est-ce que vous en dites ?
Par rapport à cette affaire, il n'y a aucune guerre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'est lorsque des individus posent des actes qui porte atteinte à la sécurité même du Burkina Faso, je ne pense pas que ce soit un acte amical de leur part. Mais ce n'est pas des actes que l'État de Côte d'Ivoire assume. La procédure n'est pas engagée contre l'État de Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'il y ait de l'embrouille entre le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. Il y a une affaire judiciaire qui est en cours. Des personnes à ce stade-là, il convient de le répéter, elles ne sont que suspectées. Ce qu'il y a, on assume la responsabilité, je pense, d'un pays. Au devant de tout cela, il faut mettre quoi qu'on fasse, même dans l'intérêt des peuples, je pense que c'est la loi qui doit primer. Dès lors que la politique fait immixtion dans le droit et la loi, il y a un risque, au contraire, à ce qu'on retrouve dans une situation où, malheureusement, ce qu'on pense éviter, on y va tout droit.
C'était Maître Prosper Farama, avocat des victimes du putsch au Burkina Faso.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Dans le sud du Nigeria, des militants indépendantistes du Biafra ont pris contrôle d'un bateau commercial au large de Port Harcourt. Ils menacent de le faire exploser avec son équipage étranger s'ils n'obtiennent pas la libération de leur leader Nnamdi Kanu. Il est arrêté depuis le mois d'octobre. Pour une analyse, Idriss Fall a joint le professeur Akoa Kakuru de l'université de Port Harcourt dans le sud du Nigeria.
Ah oui, je suis au courant. On a parlé dans les journaux, etc. On a entendu parler de cela partout. Hein.
Mais Nnamdi Kanu, c'est qui ?
Selon ce qu'on connaît, il est leader d'un groupe qui s'appelle Independent People of Biafra, c'est-à-dire un mouvement indépendantiste qui réclame, n'est-ce pas, l'État de Biafra.
La justice avait ordonné sa libération et il est arrêté depuis le mois d'octobre et il n'a pas été libéré.
Oui. C'est là, je crois, que ce qui gêne les gens, non seulement les indépendantistes, mais les autres Nigériens se demandent pourquoi le gouvernement refuse, n'est-ce pas, d'accéder à la décision de la justice. Car ça doit faire partie d'une démocratie que de respecter les verdicts de la justice, sinon on s'achemine vers l'anarchie.
Indépendantiste du Biafra, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est sérieux?
Je ne crois pas qu'il y ait tellement des gens Ivo qui réclament cette indépendance, mais on doit quand même accepter que les choses sont difficiles au Nigeria. Les hommes politiques s'accaparent de tout ce qui est richesse du pays et le changement qu'on a promis n'est pas, n'est-ce pas, si rapide, on ne voit pas clairement ce qui se passe. Et les gens se disent pourquoi. Les gens n'ont pas de travail. Il y a tellement d'inégalités dans notre pays. Je crois que ce mouvement indépendantiste n'est qu'un aile de ce qui se passe Il faut quand même redescendre aux vraies causes de ce problème, car certains Nigériens même réclament qu'il y a un État véritablement fédéral, ce qui n'est pas le cas en ce moment, oui.
Je croyais quand même que le Nigeria est une fédération d'État, non?
Je ne sais pas, ça dépend de ce que vous entendez par fédération. Nous, ce qu'on veut, les Nigériens avisent ce que les Nigériens veulent, c'est qu'il y a des États fédéraux, que les États puissent contrôler, n'est-ce pas, une certaine partie de leurs ressources et fonctionner comme tel, ce qui n'est pas le cas. Car on a l'impression que l'État fédéral s'impose de manière tellement évidente et que les gens ne se sentent pas, n'est-ce pas, dans un État vraiment démocratique.
On écoutait le professeur Kakuro de l'université de Port Harcourt dans le sud du Nigeria.
Le businessman Samba Batili, pionnier dans les secteurs de l'énergie renouvelable, était à Washington récemment pour promouvoir l'Econ Lighting Africa, initiative d'électrification de l'Afrique. Le Malien est l'un des partenaires et des mécènes de cette entreprise aux côtés d'Econ, star de la musique sénégalo-américaine. Lors d'un entretien dans les studios de La Voix de l'Amérique, il a partagé sa vision pour l'économie du continent avec Tatiana Mosso.
Facile à mettre en place, oui. Le coût, on peut dire que en termes de CAPEX, c'est-à-dire investissement, c'est lourd. Mais en termes d'OPEX, c'est-à-dire tout ce qui est l'opération, c'est moins coûteux.
Alors vous êtes un des acteurs clés de la création de sociétés et de développement durable. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui on doit investir dans ce domaine-là?
Je pense réellement que c'est le secteur qui peut changer la donne. Parce que si vous prenez l'Afrique aujourd'hui, on parle de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'énergie. Aujourd'hui, pour pouvoir réduire cette fracture énergétique, l'énergie solaire est une des solutions qui est rapide et qui, de plus en plus, les coûts sont en train de diminuer. Si vous prenez la tendance ces 10 dernières années, le coût de l'énergie solaire, c'est-à-dire le watt, est parti de 8 dollars à moins d'un dollar, c'est-à-dire à la moitié même d'un dollar aujourd'hui.
Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que le continent ne soit pas capable, avec ses ressources naturelles, prendre des initiatives plus tôt?
Moi, je pense que le problème qu'on a en Afrique, c'est un problème d'unité. C'est-à-dire, vous parlez d'Inga. Inga, ça a toujours été là. Inga, aujourd'hui, on sait que c'est un barrage qui peut fournir de l'énergie à peut-être toute la sous-région du SADC. Mais pour qu'on arrive à mettre en place Inga, il faut qu'il y ait de la coopération entre les pays. Le Congo, si on met en place Inga aujourd'hui, le Congo seul ne peut pas utiliser l'énergie produite par Inga. Il y a l'Afrique du Sud, il y a tous les pays de la région. Moi, je pense que réellement, le problème de l'Afrique, c'est qu'on puisse réfléchir en termes de projets à l'échelle du continent.
Alors justement, l'Afrique représente un grand marché, mais on sait aussi, et il y a une dernière étude de Transparency International qui vient de paraître, l'Afrique connaît aussi un fléau, c'est la corruption.
Bon, le fléau de la corruption, moi je pense que c'est lié d'abord à la pauvreté. Parce que prenez un policier qui gagne 100 dollars, il doit nourrir sa famille, il doit envoyer les enfants à l'école, c'est difficile.
Mais les contrats ne se jouent pas au niveau d'un policier.
Je parle de la corruption, d'abord ça commence là-bas. Hein? Moi, je pense que pour endiguer la corruption, il faut combattre ça à la racine. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée de la richesse.
En ce début d'année 2016, quel est votre souhait pour le continent?
Que les Africains prennent conscience qu'on va travailler avec tout le monde, mais c'est d'abord nous qui devons jeter les bases du développement.
Vous écoutiez Econ, star de la musique sénégalo-américaine.
Voilà, c'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma qui a assuré la production ce soir, assisté de notre ami Zorniak à la console. Présentation, Nathalie Barge chez Rubin Dorcy.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.